When was the last time I took a road trip? How many national parks could I hit in 2 weeks? What about hotels? Wait, hey, Erica, how much am I spending on travel?
When your questions about life turn into questions about money, there's Erica, the virtual financial assistant to help you spend, save, and plan smarter. Only from Bank of America. What would you like the power to do? Erica is only available in the English language. You must download the latest version of the mobile banking app, only available on select mobile devices. Your chat may be recorded and monitored for quality assurance. Message and data rates and additional terms may apply. Bank of America N.A., member FDIC.
This episode is brought to you by Essentia. A better you starts with better hydration. Essentia is on a mission to inspire people to do what matters most. Their proprietary ionization process transforms water from any source into ionized alkaline water, providing water that's 99.9% pure with a pH of 9.5 or higher. Essentia overachieving H2O, the number one ionized alkaline water. Shop now.
Bonjour à tous, je suis Alice Haché et je vous souhaite la bienvenue dans l'Empreinte. Nous allons essayer de comprendre ensemble comment les marques d'aujourd'hui s'engagent ou non pour notre planète. Chaque semaine, je reçois donc des start-upers, des PDG de grands groupes ou encore des directeurs de la RSE qui m'expliquent comment leur entreprise s'engage pour porter une révolution de l'impact sur notre planète. Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Fanny Auger, la directrice de la marque Nature et Découverte, l'enseigne française fondée en 1990, magnifique année, et qui se veut être la marque de la connaissance et de la découverte. Est-ce que j'ai bien résumé ce qu'était Nature et Découverte ?
Oui, en
très brièvement, parce qu'en fait, c'est à toi de le faire. Après, c'est ton job. Je suis ravie, Fanny, que tu sois ici.
Merci beaucoup de me recevoir. Bonjour à toutes et à tous.
Alors, Nature et Découverte, moi je connais la marque, en même temps depuis ma naissance, on va dire, c'est un petit peu logique, mais vraiment, j'ai commencé à être consommatrice, moi qui suis très sensible à ces sujets-là et à la nature, quand on est dans ces magasins, c'est assez immersif, on a envie un peu de tout acheter aussi. Moi, ce que j'ai envie de comprendre, c'est cette histoire de marque. Quelle était la vocation de la marque à sa naissance? Je crois que c'était inspiré d'un modèle américain. Enfin bref, raconte-moi tout, c'est pas à moi de raconter. D'où vient Nature et Découverte? Quelle est son ambition?
Alors, Nature et Découverte, c'est avant tout une histoire d'amour. La marque a été fondée par un couple d'explorateurs, j'allais dire, un couple d'entrepreneurs-explorateurs, Françoise et François Le Marchand, 1990. Alors, ils connaissaient bien le retail. Avant ça, ils avaient monté Pierre Import dans les années 70, où ils se voyaient comme des Vasco de Gama, des explorateurs qui allaient aux quatre coins du monde, chiner des choses artisanales à l'époque. Ça allait du fauteuil Emmanuel au Vietnam, par exemple, qui a fait un carton chez eux, chez Pierre Import, à des faïences qui venaient de Chine ou des hamacs qui venaient d'Amérique latine. D'ailleurs, avec des fournisseurs avec lesquels on travaille encore aujourd'hui.
Et donc, l'objectif, c'était de ramener des produits, en fait, de ramener un peu de bout de vie de chaque pays pour sensibiliser, pour donner envie de voyager. Enfin, quel était vraiment l'objectif, ou simplement, justement, de permettre à ceux qui ne voyagent pas de voyager à travers des objets? Ou peut-être les deux, tu vas me dire, en général.
Certainement. Alors, j'étais très petite, voire panée, quand ils ont fondé Pierre Import. Mais en tout cas, jusqu'en 88, Pierre Import, c'était ça. Alors, j'ai pas connu non plus ces magasins.
C'était déjà des objets existants. C'était pas de la création de nouveaux objets.
C'était plutôt des rencontres, des belles rencontres avec des artisans et chiner aux quatre coins du monde de jolies choses pour les ramener ici. Et puis en 88, avec la mondialisation qui est arrivée, ça les a moins amusés. Donc, ils ont décidé de vendre. Et pendant 2 ans, ils ont pris leurs 4 gosses et ils sont partis aux 4 coins du monde pour faire le point, se dire qu'est-ce qu'on fait après, quelle nouvelle aventure on commence. Et là, ils sont tombés amoureux à Berkeley, pas loin de l'université de Berkeley, du café Fanny, de chez Panis, qui n'existait peut-être pas encore à l'époque, même si Alice Water était déjà active. Mais à Berkeley, ils sont tombés sur un petit magasin qui s'appelait The Nature Company, je crois, et qui était un magasin fondé par des profs d'histoire naturelle et qui proposait plein de choses, d'expériences, etc., pour mieux découvrir la nature, mieux la comprendre, et ça les a fascinés. Donc en 90, ils ont monté Nature et Découverte. Ils avaient demandé initialement à The Nature Company de pouvoir ramener ce concept en France, et eux n'étaient pas intéressés. Alors, ils ont fondé Nature et Découverte en 90. Premier magasin a ouvert à Éragny en novembre 90, et le second aux Halles, et ils existent c'est encore tous les deux.
Ah, c'est
encore les mêmes magasins. Au Forum des Halles qui ouvrait, hein, c'était tout nouveau Forum des Halles, en décembre 90. Et 6 mois avant, ils se sont posés en Corse, dans leur maison de Corse. Et ils ont écrit ce que je t'ai montré tout à l'heure et qui est dans leur livre, une charte. Alors à l'époque, on ne parlait pas encore de mission, de raison d'être.
Juste une charte. Ouais.
Voilà, une charte pour dire, voilà, on veut créer des magasins avec beaucoup d'émotionnel, avec beaucoup d'expérientiel. C'est les premiers magasins sensoriels, le début du marketing sensoriel que eux ont amené parce qu'ils connaissaient bien le retail. Ils avaient envie de rendre ces magasins immersifs, des magasins pour faire découvrir et réconcilier l'homme et la nature. Le business et l'engagement, parce que la fondation qui est née en 94 avec les premiers bénéfices nets de l'entreprise, 10% des bénéfices nets de l'entreprise chaque année depuis 94 finance notre fondation. Mais à l'époque, dès 90, ils voulaient créer une fondation et être une entreprise militante dès le début. Donc en 90, ils ont écrit cette charte et en disant, en proposant des outils et des objets pour se reconnecter à la nature, nous voulons faire en sorte que les adultes et les enfants deviennent des ambassadeurs de cette oasis fragile qu'est la Terre.
Magnifique.
90.
Alors, ça, enfin, donc on a la mission et la raison d'être, en fait, écrit. D'où peut-être aussi, parce que je sais que maintenant vous êtes labellisé Bicorp. Et entreprise à mission ou pas?
Pas encore.
Bon, pas encore, ça à venir, ça, tout ça. On va un peu du pied, mais ça à venir. En fait, ce que j'aimerais comprendre, parce que finalement, on a une marque qui est née en 90. Bon, c'est quand même pas si vieux, hein, mais sur un sujet qui aujourd'hui est au cœur des préoccupations, c'est comment, parce que la nature, on sait qu'on en a besoin, là on est plus sur une urgence climatique, donc vous êtes là aussi pour ramener du beau, ramener de la pédagogie, il y en a plein qui ne comprennent pas grand-chose. Comment vous faites, et c'est aussi la question de beaucoup de mes auditeurs, parce que je pose une question en amont, pour vendre des produits, puisqu'on reste dans la consommation, quant à le GIEC qui nous dit sobriété, pour continuer à vendre du produit, tout en sensibilisant à ces sujets-là. C'est assez compliqué quand même, j'imagine.
Alors oui, effectivement, 1990, c'est vrai que c'était quand même assez pionnier à l'époque. Hein.
On parlait pas encore d'urgence, il y avait moins encore d'alerte.
Écologie, c'était un gros mot. Dans le langage business, dans l'économie, écologie, c'était un
tout
gros
fait.
Mot. Il y avait les écolos, les gentils babacool qui embrassent les arbres d'un
mais
côté,
c'est vrai qu'on
et les businessmen
le
de l'autre. Et quand François Lemarchand arrivait, et c'est quand même, il était patron de l'entreprise, donc fondateur avec Françoise et patron, et il était en même temps, je crois qu'il était au bord de Greenpeace. Et WWF.
Ah oui.
Et pour un patron d'entreprise, à l'époque, c'était quand même quelque chose de révolutionnaire. Mais je pense que comment est-ce qu'on reste toujours pionnier? Alors, nous, on n'a jamais fait de pub. Nature et Découverte, notre meilleure pub, c'est nos magasins, c'est nos meilleurs médias.
C'est vrai, vous ne faites pas du tout de pub.
Ouais. Nos guides conseils en magasin, c'est nos meilleurs ambassadeurs.
C'est le bouche à oreille?
Le bouche à oreille et puis nos magasins, je crois que c'est les plus beaux étendards, les plus beaux, on appelle ça des flagships aujourd'hui, mais c'est les plus beaux ambassadeurs finalement, avec nos guides conseils que je salue au passage, qui sont les meilleurs médias pour la marque. Et aujourd'hui, on a plus de 90 magasins en France et puis une quinzaine en Europe.
Il n'y a pas du tout de vente en ligne du coup quand
si,
même
si, si, on a un site internet qui a bien pris le relais pendant les confinements successifs, puisque là, on sort de 2 ans où on a fermé les magasins quelques centaines de jours. Donc oui, mais je pense que c'est en restant sincère et authentique sur la démarche. Notre fondation, donc, qui était déjà en germe en 90, mais on a dû attendre de dégager des bénéfices.
Forcément.
Donc en 94, on l'a officiellement monté. 10% des bénéfices nets d'une entreprise, c'est pas rien. Hein. C'était avant le 1% pour la planète qui depuis a fleuri. Mais nous, c'était un peu avant. Et la fondation, elle a 2 axes. Et ce sont les mêmes depuis le début. C'est assez rare.
C'est
et
rare parce qu'il y en a beaucoup qui s'éparpillent.
Oui.
C'est bien après de s'éparpiller. Et moi, j'encourage les gens à multiplier leurs engagements, mais parfois, de renforcer ses engagements, c'est pas mal aussi.
Et nos 2 axes de la Fondation, depuis 1994, c'est la biodiversité, la protection du vivant, et la pédagogie active au contact de la nature. On finance écoles du centre aéré.
Biodive, là, on l'entend de plus en plus en ce moment que pour décarboner, il faut remettre de la biodiversité. Et ça, pendant un moment, on l'a un peu... C'était un petit peu accessoire, j'ai l'impression. À un moment, la biodive, c'était sympa, on pensait aux abeilles... Est-ce que tu remarques ça aussi, cette accélération, même très récemment?
Alors, je vis dedans au jour le jour. J'ai la chance d'être membre du COMEX de la Fondation, où on rencontre sans cesse des assos de terrain, aux quatre coins de la France et du monde aussi, mais partout en France, des gens qui sont engagés. Donc, j'ai l'impression que finalement, tout le monde ne parle que de ça. Mais
ah
peut-être
oui,
que
ah
j'ai
mais,
un
ah bah là, récemment, non, ça s'est accéléré, parce que moi qui suis pas plus sensible sur un sujet qu'un autre, j'essaie vraiment de faire mon métier le plus objectivement possible. Là, ça monte. D'ailleurs, beaucoup de marques s'engagent sur la biodiversité, de plus en plus, et pas uniquement en plantant des arbres ou en mettant des abeilles et des ruches.
Mais je pense que pour reprendre ta question, Alice, c'est rester pionnier sur cet engagement. On a été la première société à faire un bilan de développement durable en 93.
Comment t'as fait ça, d'ailleurs, en 93?
Alors, moi, je n'y étais pas.
Oui, c'est vrai. Comment ont-ils fait ça?
Mais en fait, c'est une jeune femme sortie fraîchement d'HEC, qui s'appelle Elisabeth Laville, qui a fondé le cabinet Utopie.
Ah, mais que j'ai eu dans l'empreinte.
Certainement.
Coucou, Elisabeth.
Coucou, Elisabeth.
Brillante femme.
Voilà, qui a contacté à l'époque Yvon Chouinard de Patagonia, Anita Rodic de Body Shop, les Ben & Jerry's et François Lemarchand, pour leur dire, je pense qu'aujourd'hui, une entreprise, elle devrait aller plus
Ben
&
Jerry's,
loin
elle a osé...
À l'époque.
Ah ouais,
à l'époque.
Ouais, j'adore l'audace.
Qui sont quasiment tous certifiés Bicorp, si je ne me trompe pas.
Même Ben & Jerry's?
Je ne suis pas sûre, mais...
Parce que là, il faudrait y aller quand même.
En tout cas, Body Shop, oui.
Ouais, Body Shop,
et Patagonia, c'est le plus bel ambassadeur.
Bien sûr.
En tout cas, elle les a contactés en disant, voilà, moi, je vous propose de faire un bilan qui va plus loin que le bilan économique et financier d'une entreprise et de voir l'impact d'une entreprise sur ses parties prenantes, sur son environnement, son écosystème de fournisseurs, de salariés, etc. Et ça a été notre premier bilan arc-en-ciel. Bilan arc-en-ciel,
c'est
j'aime beaucoup
ça.
La naïveté du terme.
Non, mais c'est surtout plus sympa qu'RSE et
voilà.
Tout, quoi.
Bon,
faut qu'on remette des mots qui donnent envie, parce que RSE, tout le monde en a marre. Mais c'est vrai, hein, c'est un terme qui est déjà galvaudé. Je pense qu'on va remettre le bilan arc-en-ciel. C'est bien. Moi, je suis pour.
Pourquoi pas. Mais du coup, voilà, on a fait le premier bilan carbone d'une entreprise française en 2007. Donc, on s'est attaché très tôt aux questions de carbone. Et puis, on est devenu Bicorp en 2015. Et là, on vient de passer l'été dernier notre troisième certification, enfin notre deuxième recertification. Et on est très fiers parce qu'on essaye toujours de s'améliorer alors que le questionnaire devient de plus en plus dur.
Je pense que c'est intéressant que tu en parles auprès de nos auditeurs qui sont beaucoup aussi des consommateurs. Pour eux, si demain ils voient un label Bicorp et qu'ils ne savent pas exactement en quoi ça consiste, qu'est-ce que tu peux leur dire brièvement?
Que Bicorp, alors, au-delà d'un label ou d'une certification, moi je trouve que c'est une communauté, mais ça on le sait quand on en fait partie, mais surtout c'est un mouvement d'entreprise. Alors j'aimais bien le claim initial de Bicorp, c'était « ce ne sont pas celles qui veulent être les meilleures du monde, mais les meilleures pour le monde ». Et ça c'est pour des termes très simples. Maintenant, quand on est Bicorp, ça veut dire qu'on est une entreprise qui répond à des exigences très très hautes et qui calcule vraiment son impact et qui a montré carte blanche sur les cinq grands piliers de la RSE, son impact sur les parties prenantes, sur la gouvernance, l'environnement, les clients, les fournisseurs et puis les communautés autour.
En fait, une entreprise qui est transparente.
Aussi.
C'est ce que reprochent beaucoup les consommateurs, c'est l'opacité des entreprises et parfois la mise sous le tapis de certaines informations parce qu'on a peur d'en parler. Vous, finalement, ce label-là certifie une totale transparence. C'est important.
Oui, pourquoi? Parce qu'on doit passer un questionnaire qui fait de 200 à 300 questions, voire 400 si on creuse un peu, et où on doit montrer évidemment des preuves chaque fois pour valider. On ne peut pas perdre de points, mais il faut avoir minimum 80 points, et c'est très difficile. La plupart des entreprises, je crois qu'un bilan moyen, c'est 57 points. Donc, il faut avoir plus de 80 points.
Et justement, si on parle concret, comment vous vous engagez? Donc, tu m'as parlé de deux piliers, puisque c'est la fondation qui s'engage, enfin, la marque, forcément, c'est l'ADN de la marque, la fondation. Comment concrètement vous vous engagez aujourd'hui face à l'urgence? Je ne sais pas, sur les produits, la traçabilité. Donc, tu m'expliquais qu'il y avait de la pédagogie, mais vraiment au-delà de ça, je pense qu'au-delà de s'engager sur deux causes, il faut soi-même aussi revoir comment on fonctionne, ce qu'on vend à nos clients. Et qu'est-ce que vous faites concrètement, du coup, là-dessus?
Donc, en effet, il y a la fondation qui a toutes ses actions depuis 28 ans maintenant. Maintenant, sur l'offre, on a retravaillé il y a 2 ans notre raison d'être. Alors, on avait certes une mission depuis le début. On s'est dit, là, il est temps au-delà de l'observation, l'émerveillement face à la nature. Nature et découverte, après tout, c'est un peu une Madeleine de Proust. Pour tous les Français, on a l'impression que ces magasins, ça fait que 32 ans, c'est jeune 32 ans. Mais on a l'impression
c'est encore jeune et frais.
Qu'ils ont toujours été là, n'est-ce pas? Et c'est notre raison d'être. d'être, le travail qui a été entamé sur la raison d'être il y a 2 ans, c'était vraiment pour cranter cet engagement. Au-delà de l'émerveillement, maintenant, il est temps d'agir. Et l'urgence climatique, et puis les rapports du GIEC, le Covid aussi, quelque part, on ne sait toujours pas la cause précise de ce Covid, mais finalement, nous sommes forcés à retravailler ça. Et notre nouvelle raison d'être, dont on a accouché il y a 2 ans, c'est qu'on a travaillé avec le cabinet Utopie. Notre nouvelle raison d'être, c'est offrir des solutions concrètes, produits et expériences, à tous ceux qui veulent changer leur mode de vie pour une écologie de la terre, du corps et de l'esprit.
Donc, tu as des kits zéro déchet ?
Ah oui, on vend du... Alors, avant, ça ne s'appelait pas comme ça parce que c'était le zéro déchet, ouais. Le terme n'était pas consacré encore. Vrai. Mais on en a toujours vendu. Il y a 10 ans, on avait lancé une offre sur la maison au naturel, avec faire sa lessive soi-même. Mais c'était trop tôt.
En fait, oui, et puis ça passait presque plus dans le côté un peu mini-scientifique, quoi. C'était un petit peu... moi, je sais, quand j'étais petite, je faisais plein de trucs de chimie dans ma chambre. Mmh. Mais finalement, c'était presque ça. C'était un peu le kit du petit labo à domicile.
Ou un peu écolo-éclairé, tu vois.
Ouais,
je pense que c'était là trop tôt.
Je pense que limite, tu parlais pas d'écologie à l'époque. C'était plutôt le côté ludique du truc. Alors que maintenant, c'est regarde comment tu peux sauver la planète en faisant ta propre lessive, tu vois.
On a une offre zéro déchet conséquente. Et le fait d'avoir retravaillé notre raison d'être, ça nous a forcé en interne aussi à s'organiser différemment. Je parlais tout à l'heure de gouvernance, de parties prenantes. On a créé au sein du département achat, donc c'est ceux qui choisissent, qui éditent nos produits, puisque 70% de notre offre dans les magasins Nature et Découverte est signée Nature et Découverte. On crée et édite nous-mêmes nos produits.
D'ailleurs, comment vous sélectionnez vos fournisseurs, parce qu'ils font partie de notre scope 3 justement aussi.
Justement, on a créé ce département d'innovation durable, on l'a appelé, donc qui est sous la direction de Valérie Durandy, notre directrice des achats. Le département innovation durable, il est sous la direction de notre directrice de l'innovation durable, qui est une autre Valérie Virasamy, et qui a créé un département qui travaille sur l'audit de nos fournisseurs pour cranter et faire davantage d'audit encore, même si on était très rigoureux sur la question, tu peux pas être Nature et Découverte, et voilà. Mais on a encore cranté ces audits et on a encore renforcé ces audits auprès des fournisseurs à travers le monde. On a des fournisseurs en Asie, c'est vrai. On a des fournisseurs en Amérique latine. Je parlais des hamacs et des villages et des familles entières qui travaillent avec nous depuis, j'allais dire, des générations maintenant. Depuis Pierre Imper déjà, on travaille avec des fournisseurs. En ce moment, on a une collection Oasis, donc autour du Maroc. On a des fournisseurs en Europe. Enfin, un petit peu partout. Donc, la traçabilité, l'audit des fournisseurs, le cycle de vie du produit. Quel est l'impact de nos produits, leur cycle de vie, la réparabilité en ligne. Alors avant, on les proposait en magasin, mais c'était un peu compliqué parce qu'il y a des milliers de références. En ligne, on peut trouver les pièces détachées des produits qu'on vend en magasin. Si vous cassez, si votre chat renverse votre diffuseur, vous pouvez racheter la verrerie de votre diffuseur sur notre site internet. Donc la réparabilité, la durabilité. On travaille, on se pose des questions sur la seconde vie. On travaille aussi avec Too Good To Go, avec qui on a un partenariat depuis 2019 déjà. Donc ça fait 3 ans qu'on a un partenariat, une autre Bicorp, sur justement le cycle de vie des produits. C'est beaucoup de petits fournisseurs français comme Jean Maison, qui est un herboriste qui vit alors en centre de la France et qui va chercher des herbes pour toutes nos infusions viennent de chez lui. On travaille avec Terdoc, qui est basé à Fort-Calquier, dans les Alpes de Haute-Provence, et qui nous fournit nos huiles essentielles bio, notre thé et nos senteurs également. On travaille avec donc beaucoup de fournisseurs français.
Donc finalement aussi vous relocalisez au maximum pour à la fois réduire le transport et faire travailler le pays, j'imagine, les régions.
Alors on essaye quand c'est possible.
Oui. Oui, mais c'est vrai que comme c'est Nature et Découverte, j'imagine qu'il y a quand même aussi pas mal de produits importés.
Oui, on développe des offres locales également. On essaye de choisir quand on peut des fournisseurs français. Mais par exemple, quand je parle de la ligne de bagagerie Nature et Découverte, elle est faite en Chine parce qu'elle est en RPET, en bouteille d'eau plastique recyclée. L'usine qui fait ça, elle est basée en Chine.
Et donc comment tu fais pour te dire, ok, alors j'ai un côté où mon produit il est ultra éco-responsable, par contre le transport ne va pas l'être. Comment tu fais pour réduire au maximum
Pas de frais aériens. Je crois que le frais aérien l'année dernière représentait 0,27%
Donc tu le fais livrer comment?
Bateau.
Bateau, mais c'est... Parce que j'ai toujours un doute sur les paquebots, parce que c'est quand même très polluant. Est-ce que ça c'est... Il y a aussi de l'innovation dans cette mobilité?
On essaye de tout auditer. Ouais. Et l'impact du frais aérien par rapport au bateau...
Ouais, c'est... Non, oui. Sans l'avion, on sait que ça reste le pire, mais c'est vrai que... Après, c'est pas à vous d'innover sur les cargos, mais...
Les frais aériens, 0,27%, c'est exceptionnel, quand
c'est...
même.
Non, mais c'est top, ouais. C'est pas grave.
Mais ça, grâce à ce monitoring, j'allais dire, du bilan carbone depuis 2007, sur le scope 1 et 2, le scope 3 est beaucoup plus complexe, évidemment.
C'est pour ça qu'il y en a plein qui...
Et on est en plein dedans.
Mais il y en a plein, et moi qui interviens énormément d'entreprises, qui anime beaucoup de conférences, il y en a plein qui veulent même pas essayer de le calculer.
Alors c'est nous, on est en compliqué. Plein dedans, ah ouais. Mais c'est un énorme travail. On est mobilisé depuis un an maintenant, on travaille avec, avec un presta qui nous accompagne là-dessus, parce que c'est très complexe. Sure. En tout cas, le scope 1 et 2, on le moniteur depuis 2007, et en plus, on a même une prime qui a été mise en place de manière assez exemplaire, je trouve, pour le CODIR. Si le delta entre le bilan carbone, l'évolution du bilan carbone, donc scope 1 et 2 hein, depuis 2007, et le chiffre d'affaires est de 5 points ou plus, eh bien, on a une prime sur le bilan carbone.
Ça, c'est top.
Ouais. Et ça permet vraiment à changer les choses en profondeur à tous les niveaux de l'entreprise, responsabilité ouais. partagée.
Non, mais c'est top et ça permet aussi d'embarquer ceux qui ne sont pas forcément convaincus. Parce que nous, on est convaincus. On est là pour parler... Toi, c'est ton métier, moi aussi. C'est facile pour nous, entre guillemets. On respire RSE, on infuse déjà. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas convaincus. Et quand tu sais qu'en Amérique, il y a 50% des Américains qui sont climato-sceptiques, ça fait peur, tu vois.
Mais j'ai une bonne pratique, d'ailleurs, à partager là-dessus. On est en train de revoir. Depuis un an, nous avons une nouvelle directrice générale, une femme, Frédérique Giavarini. Et elle croit vraiment à la gouvernance partagée de la RSE. Nous, on avait un département des engagements et de la fondation en interne qui officiait depuis des années et qui s'occupait du bilan carbone, qui s'occupait de B Corp. Aujourd'hui, on est en train de créer une gouvernance totalement partagée. Ça veut dire que chaque équipe, chaque direction, à tous les niveaux, que ce soit la DSI, l'entrepôt, moi au niveau de la direction de la marque ou alors des achats, on a une personne dans nos équipes au sein de chaque équipe qui est ambassadeur RSE et qui se réunissent une fois par mois et qui font le point de leurs actions RSE. Et ça permet vraiment d'avoir un partage à tous les niveaux de la RSE. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Au lieu de se dire, bon, la RSE, c'est un service parmi d'autres, plus ou moins, d'ailleurs,
mais
selon les boîtes
puissantes. Ça tend à disparaître dans les... Il y a toujours un référent RSE, mais comme tu le disais, dans les entreprises, maintenant, ça doit infuser partout. Mmh. C'est même au COMEX, hein, maintenant, le directeur RSE souvent fait partie du CODIR.
Ah bah
ou
nous,
du COMEX,
ça fait très longtemps qu'il est au CODIR.
Vous, c'est dans l'ADN, mais pour des marques, avant, c'était pas du tout... Maintenant, c'est incontournable. Donc, puisque le temps nous est compté, est-ce qu'on aurait... oublier d'évoquer des choses qui sont très importantes pour toi.
Écoute, je parlais beaucoup de l'histoire de Nature et Découverte, ça fait 32 ans. Moi, je pense que qu'est-ce qui est important pour nous, c'est de s'inscrire dans les 32 prochaines années. Je crois qu'aujourd'hui, au cœur des attentes, des envies de nos contemporains, ben, cette marque, elle résonne, en fait, la recherche de naturalité, de solutions différentes, parce qu'on propose pour le coup cette raison d'être.
Si tu nous trouves un truc pour décarboner la planète, moi, tout de suite, je vais te l'acheter.
Alors, la planète, non, mais on croit beaucoup aux petits pas, en tout cas. En chacun, à notre petite échelle.
Le kit pour décarboner ton...
Non, j'ai pas de leçons à donner. On se garde bien de donner.
Non, mais
des
j'aimerais
leçons.
Bien. Non, mais si un jour vous inventez quelque chose. Mais ça, on n'est pas à l'abri, moi. Moi, je suis pour que les marques trouvent des solutions.
Ben, on essaye. Je pense que beaucoup sont en marche et ça, c'est réjouissant. Oui. Par rapport à quelques années où nous, on était peut-être un peu seuls. Et voilà, aujourd'hui, que ce soit des grands groupes ou alors des natives qui se construisent autour de l'engagement et qui le mettent vraiment au cœur de leur modèle d'affaires. Et ça, c'est fondamental, je pense.
Merci beaucoup, Fanny.
Merci, Alice, de m'avoir reçue. Merci beaucoup.
Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Et comme d'habitude, vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast ainsi que chaque semaine sur thegood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. À très vite.